Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Dr Dominique Pelletier du CHSLD Sainte-Adèle et Daphné Poirier, aussi préposée aux bénéficiaires au CHSLD Sainte-Adèle. De quoi on parle aujourd'hui?
Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder toute la notion du plaisir au travail, puis comment le plaisir est intégré dans les soins, dans les différentes actions autour des résidents. Donc, bonne écoute!
On prend soin de nos aînés. Passion, partage et compassion, notre façon de travailler. Pour vivre vieux et vivre heureux, on a de nouvelles idées. On veut tout améliorer, vous pouvez vous impliquer. Des milieux de vie et bien plus.
Donc, qu'est-ce qui vous a amené à venir travailler en CHSLD? Fait que là, Daphné, tu nous l'as expliqué un peu. Fait que je sais pas...
Ben, c'était de plusieurs raisons, là, justement, un peu plus le côté médical puis le côté travail d'équipe, je dirais, là, du côté médical, c'est ça, là, je me suis trouvé dès un peu les débuts de ma formation, mes premiers stages, un intérêt pour la gériatrie, là, donc le CHSLD, ben, faisait du sens, là, comme perspective éventuelle de carrière, la gériatrie, tu sais, juste ça, je trouve que... C'est dur à dire des fois pourquoi on aime ce qu'on aime, ouais. mais on aime ce qu'on aime. T'sais, je trouve que c'est des enjeux intéressants. Puis c'est la même chose pour les soins palliatifs. J'ai un intérêt que j'ai développé là-dedans. T'sais, je trouve que même si c'est des situations des fois tristes, la fin de vie, la mort, ça peut sembler sombre, ça peut sembler triste, mais il y a de quoi de gratifiant d'aller chercher à faire un sens pour les familles et pour les patients de ces situations-là de fin de vie. Puis il y a de quoi aussi d'immédiat dans le geste qu'on pose. T'sais, des fois, bon, en médecine là, préventive, on pose des gestes sur les patients pour essayer d'éviter des complications à 10, 15, 20 ans, mais là, c'est mon patient, il a mal, je soulage mon patient, je vois tout de suite le résultat de mon geste. Fait qu'il y a de quoi de gratifiant là, dans les soins palliatifs. Puis un peu la même chose dans la gériatrie, on pense moins aux 15, 20, 30 ans. Fait qu'on pose des gestes pour que le patient se sente bien un peu maintenant. Puis je trouve qu'il y a de quoi d'agréable là-dedans. C'est une chose qu'on pousse un peu vers la gériatrie. Fait que bon, dans la gériatrie, ben, c'est ça, il y a le soin à domicile, j'en fais aussi. Il y a le CHSLD, puis sinon, il y a la médecine d'hôpital. Mais ça m'intéresse un peu moins, c'est trop. C'est trop actif un peu, tout ça. Moins mon dada, le stress, l'adrénaline.
Ouais. Pourquoi il doit en avoir quand même un peu en CHSLD?
Oh, il y en a aussi. Il y a de la grosse médecine aussi, là, pour ceux qui aiment justement le mystère médical, qui aiment la grosse médecine interne, justement, là, le Dr House avec les maladies rares. Là. On en voit passer aussi là, en CHSLD. C'est sûr que notre approche diagnostique, les tests diagnostiques qu'on a, ben, sont un peu moins là, mais il y a quand même de la belle médecine qui se fait ici. Là. C'est pas de la médecine plate comme on entend des fois parler. Non,
puis c'est une clientèle, c'est ça. Les personnes âgées qui sont en CHSLD sont assez hypothéquées.
Oui, ils sont
très
malades.
Des gens qui sont malades, qui sont en grande perte d'autonomie. Fait que il se passe pas rien, en fait.
Non, vraiment pas. Non, je suis occupée, là. Je me tourne pas les pouces.
Pas un long fleuve tranquille de prescription de médicaments.
Puis, pendant qu'on en parle, justement, de la médecine du CHSLD, le fait que notre population est un peu là, mal aimée par la science, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur eux, toutes les études, là, même en gériatrie, généralement, c'est patient de 65 ans, 75 ans. Puis, tu sais, nos patients, ils ont facilement souvent plus que ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur eux, il n'y a pas beaucoup de lignes de pratique, beaucoup de guidelines. Des fois, je crois qu'en médecine adulte, on faisait juste comme régurgiter des fois un peu des guides de pratique, là, alors qu'ici, c'est vraiment, là, non, c'est au cas par cas, il n'y a pas une bonne réponse, rarement. Fait que, faut utiliser la tête, c'est un peu différent là, c'est ça quand médecine adulte, mais il faut vraiment utiliser la tête parce que justement on n'a pas la réponse tout cuit dans le bec, puis ça fait que c'est des défis intéressants.
C'est ça,
là,
c'est pas une ligne claire et droite de c'est ça qu'on fait, c'est
non exact, il faut trouver ce qui fait du sens dans le contexte, puis tu sais des enjeux vraiment différents justement en une durée de vie moyenne qui est beaucoup moins longue, fait que ça change un peu nos interventions, il y a des choses qu'on essaye d'éviter autant que possible, les tests invasifs, les visites à l'urgence, et on a moins de choses derrière nous, fait qu'on peut plus se débrouiller. T'sais, c'est pas de la médecine de brousse, mais des fois, ça peut quasiment s'y ressembler. T'sais, bon, j'ai pas la radiographie. S'il faut que j'en vais faire une radiographie, ben, alors, faut que je pense que c'est un transfert à l'urgence pour ma patiente, t'sais, qui peut être dément. Ça peut être très traumatisant pour eux d'y aller. Fait qu'il faut y penser vraiment deux fois, là, avant de faire les tests. Ça nous fait un peu le défi, là, justement, de devoir plus se creuser la tête avant de demander, là, nos tests d'investigation et tout de suite. Fait que ça fait un défi différent, ouais.
Ah, ben, intéressant, mon Dieu. Ça a l'air très large, le spectre de la médecine en CHSLD. Ah,
définitivement. Ben, le spectre de la médecine est énorme. Et dans chaque sous-domaine, il y a moyen quand même de se personnaliser, là, définitivement. Puis, ouais, ça. Puis l'autre aspect un peu de ça, ben, c'est ça. Le travail d'équipe, là, j'ai toujours aimé ça, justement, travailler en équipe. Puis, c'est, je pense, c'est vraiment la place que c'est le plus vrai en CHSLD, là. En GMF ou au bureau, en médecine de famille, tu sais, oui, bon, il y a tes collègues, tu peux consulter tes collègues, mais c'est quand même toi avec ton patient qui fait ta petite affaire dans ton bureau, oui, tu peux demander de l'aide. Moi, c'est CHSLD, vraiment, les infirmières, les préposés sont vraiment mes yeux puis mes mains, là, tu sais, eux autres sont là constamment, c'est un peu leurs patients. Moi, tu sais, je viens faire ma tournée, je suis là un peu en surplus. Fait que c'est eux qui savent, oui, là, depuis que tu as fait ça, il s'est passé telle chose, ils ont vraiment été comme ça. On travaille vraiment là, directement en équipe. La plupart de l'information se retrouve dans le dossier, se trouve avec l'infirmière, avec les préposés, qu'avec le patient. Là, c'est, fait que c'est vraiment un aspect que je trouve le fun, là, le travail d'équipe.
Ben oui, c'est ça, ce travail-là. Là, toi, Daphné, là, on va tomber dans une autre vision. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le CHSLD? Là, t'as un peu expliqué quand t'es arrivé dans le fond, il y a 2 ans, puis un peu le déclencheur, là, si tu peux nous revenir là-dessus, puis ça ressemble à quoi, là, ton travail, puis qu'est-ce que t'apprécies?
Ben, en fait, quand j'ai fait ma formation, je l'ai faite à Sainte-Agathe, puis à Sainte-Adèle aussi.
OK.
Puis, j'ai pas choisi le centre, en fait. C'est le centre qui m'a choisi. Fait que je suis juste restée ici. J'ai pas postulé ailleurs. Puis, sinon, tu sais, nos journées sont quand même comblées d'amour et de...
Pourquoi le CHSLD? Parce que c'est vraiment pas glamour comme milieu, là. Quand on fait nos cours ou quand... Si on fait des stages à l'école, sinon on dit ah, le CHSLD ou tu t'en vas en CHSLD, c'est dit avec un ton. Fait pourquoi là de se dire hey, je vais aller travailler en CHSLD?
Bien, en fait, je sais qu'il y a l'hôpital. Moi, je suis jamais allée à l'hôpital, mais j'ai entendu dire que c'était des va-et-vient. Là, c'était pas... Ici, au moins, on peut vraiment créer des liens avec les résidents, on crée une affinité avec eux, une confiance. Puis quand on vient travailler avec eux le lendemain, le surlendemain. Ils nous connaissent. Fait que l'approche est différente aussi. On apprend à les connaître, on crée une routine avec eux. Fait que c'est plus...
Ça amène une proximité,
exactement.
En fait, d'être dans... Tu sais, en fait, eux, c'est leur milieu de vie. C'est ouais. Là qui évoluent, c'est là qu'ils sont là quotidiennement. Puis là, c'est comme si les travailleurs se greffaient à
exact.
Ce milieu de vie-là. Fait que ça doit sûrement venir changer quelque chose, ça, dans le quotidien ou dans la manière qu'on travaille
oui,
avec
absolument.
Les résidents. Puis là, dans le quotidien, un peu, à quoi ça ressemble? Parce que là, je veux qu'on aborde aussi la notion de plaisir, comment ça peut teinter le quotidien, mais un peu vos quotidiens, à quoi ça ressemble. Là, toi, Daphné, t'es là sur une base régulière. Au niveau médical, c'est plus sporadique, c'est des visites une fois par semaine.
Exact. Mais dans le fond, on n'est pas assigné un nombre de temps, on est assigné un nombre de patients. Là, moi, okay. Présentement, dans le fond, j'ai le premier étage et le troisième étage à mon nom, ce qui fait en tout une 60aine de patients. Pour ça, dans le fond, là, je prends 2 jours par semaine, là, bon, que je sépare entre les deux. Puis, en gros, là, tu sais, les patients, les infirmières se s'occupent de leur patient, ils s'occupent de leur patient. Puis, mettons, on s'imagine à domicile, là, si à un moment l'infirmière dirait, bon, ce patient-là, il aurait besoin d'aller voir le médecin, je l'envoie à son bureau de son médecin, mm-hmm. Mais à la place de l'envoyer au bureau du médecin, elle me le met dans mon cahier. Elle m'écrit son nom.
Pour la tournée.
Madame Hurtel, là, docteur Pelletier, j'aimerais que tu la vois parce que je la trouve un peu plus agitée ou je la trouve moins confortable. Peu importe, il y a une mille et une bonne raison, là, mm-hmm. que j'ai besoin de faire une évaluation. Puis là, moi, quand j'arrive le jour de ma visite, les infirmières savent, là, c'est quand que je viens, ben, je laisse mon cahier, je vois, bon, il faut que j'aille voir Mme Huntel, telle chose, que là, je parle aux infirmières, bon, qu'est-ce qui se passe avec Mme Huntel, bon, il se passe ici, ça, fait que j'ai une discussion avec l'infirmière, t'sais, oui, c'est écrit dans le cahier, mais le matin, ça, je prends le temps de descendre le cahier avec l'infirmière, on regarde toutes les situations ensemble, puis là, après ça, bon, selon la situation, ben, je vois le patient, j'appelle la famille, je vois les préposés, je discute avec les infirmières, je fais toute mon évaluation sur l'information, puis là, ben, de là, ben, je fais mon diagnostic, je fais ma médecine là, avec l'information que j'ai pu trouver. Puis c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Fait qu'il n'y a pas de temps à louer en disant j'en ai 15 à voir, puis là, c'est 30 minutes par patient.
Non, oh non, vraiment pas. Chaque patient prend vraiment le temps que ça prend. Des fois, là, bon, je suis sur le cahier parce que j'ai juste un petit laboratoire à voir, ça me prend 5 minutes, puis c'est réglé. Ou des fois, ben, il y a une situation plus complexe. Là, on change vraiment d'étape dans sa vie. C'est un patient qui allait bien, qui là va moins bien, puis là, on peut tout remonter. Puis là, il faut parler avec la famille, il faut parler avec un tel. La gestion de la médication, j'appelle le pharmacien. Des fois, ça peut prendre 2-3 heures pour régler un patient ou comme l'admission, ça me prend des fois je sais, un 2-3 heures aussi de faire le grand tour du dossier. Fait, c'est très rare, c'est un peu par cas. Puis des journées que bon, des semaines que tout le monde va bien, ils n'ont pas besoin d'aller voir le médecin, fait que ben, je finis tôt. Puis des journées que ah, ben, là ça va un peu moins bien, il y en a plus qui vont mal. Puis là, ah, ben, là je finis tard. Ou je m'en laisse la semaine d'après.
Puis il doit avoir entre-temps sûrement des appels parce que si mettons il y en a une qui va pas bien ou un qui va pas bien, on n'attend pas la semaine d'après.
Oui, ben c'est ça les journées. Ben c'est ça les journées. Exact. Oui, ben les journées où on n'est pas là, dans le fond, 2 jours, on est sur appel sur nos patients. Fait que s'il se passe quelque chose, qu'ils peuvent pas attendre justement le lendemain ou la prochaine visite, ils m'appellent. Puis de soir, il y a tout le temps un médecin de garde là, jour, soir, nuit. Fait que c'est lui qui appelle en premier là, s'il faut qu'on gère une situation avant le retour du médecin.
C'est ça. Puis au niveau de ton quotidien, Daphné, à quoi ça ressemble plus un À quoi ça ressemble, que ce soit là, je sais pas, de jour, de soir, parce que tu sais, c'est 24 heures sur 24 là, mm-hmm. en CHSLD, y a pas, ça n'arrête pas dans la nuit, puis on reprend à 8 heures au déjeuner, là, fait que
ça ferme pas.
Non, c'est ça, c'est en tout temps. À quoi ça ressemble un quotidien de préposé aux bénéficiaires?
Ben, en fait, moi, je suis de soir, fait que mon quotidien de soir, on a un petit rapport avec le chiffre de jour, comment ça s'est passé, les petites lacunes. Puis après, on part notre tournée, on dit bonjour aux résidents. Puis après, on a maintenant le service de vrac pour le souper et pour le dîner.
Puis c'est quoi ça, le service de vrac? En fait... pour vrai, je sais pas c'est quoi ça.
C'est nouveau, ça doit faire depuis le début de l'été qu'on a commencé ça.
OK.
Fait qu'on propose aux résidents qu'est-ce qu'ils veulent manger, donc il y a un choix de menu.
OK.
Puis on propose s'ils veulent la soupe, s'ils veulent deux, trois soupes.
Parce que vous avez des cuisinettes, je pense, dans chacune des unités, ou pour deux unités, là, il y a une cuisinette. Puis est-ce que c'est pour tous les repas qu'il y a ce service-là qui est offert?
En fait, le déjeuner, c'était déjà ça.
C'était déjà comme ça.
Puis là, il y a le dîner et le souper.
Fait que le résident, il choisit qu'est-ce qu'il veut manger, comment il s'intègre.
Ouais.
Est-ce qu'il mange à sa chambre, est-ce qu'il mange à salle à manger?
Exactement.
Il fait sa routine, en fait. Comme ça, il tente.
Fait que ça laisse le choix au résident
de
manger qu'est-ce qu'il veut.
Ben oui, exact, c'est ça, de décider. Exactement. Puis après ça, fait qu'il y a toutes les préposés bénéficiaires, ils vont venir vraiment tout soutenir, parce qu'on l'a dit, c'est déjà avec des grandes pertes d'autonomie, fait que, tu sais, au niveau, ils sont plus capables de se faire à manger, plus capables de se laver tout seul nécessairement. Comment qu'on rentre un peu dans cette bulle-là d'intimité des gens, parce que ça doit pas être si simple là, de se dire « Salut, je m'en viens vous donner votre bain, bonne journée. »
Ben, premièrement, on prend énormément l'autonomie du résident. Fait qu'on on les amène à faire leurs soins le plus possible. Puis nous, on vient compléter, puis superviser. Donc déjà là, on leur donne la possibilité d'être autonome encore.
Puis les faire le petit coup de pouce supplémentaire
c'est ça.
De qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire.
Exactement. Puis c'est ça.
Ah, c'est le fun. C'est le fun. Là, j'aimerais ça, en fait, là, qu'on aborde, qu'on tombe un peu plus là, dans la notion. Est-ce que ça s'intègre dans le quotidien vraiment, pas s'amuser, là, mais comment qu'on peut intégrer le plaisir au quotidien? Est-ce que ça se fait avec la partie médicale de dire, ben, on participe à certaines activités pour être capable de faire les évaluations ou d'offrir les soins? Ça ressemble à quoi où on n'est pas du tout là-dedans encore, où ça se met pas ensemble?
Tout est dans l'approche avec le résident. Il y a des résidents qui sont ouverts à... qui vont, eux, ouvrir la porte de l'humour. Ça va... Déjà, le soin va être différent aussi. Plus amusant. Puis
tout le cadre d'activité aussi. Là, j'étais dans l'ascenseur, là, je voyais un gros calendrier de loisirs. On s'en va pas déranger quelqu'un, par exemple, qui va à sa messe. Ou, comment qu'on intègre ça pour garder cette routine-là? T'sais, si on a besoin de voir dans la tournée, on va chercher, on fait? Ou ça t'arrive de t'intégrer dans la routine?
Ça dépend vraiment de la situation puis un peu de l'urgence médicale de tout ça. Là, mais si c'est juste là, c'est quelque chose de très routinier, là, je vais le voir un peu pour la forme, pour le saluer, mais que là, le patient, il dort ou il fait une activité, ou je veux pas le déranger, tu sais, ça demeure que oui, des fois, bon, je me permets pour un peu plus une urgence médicale de briser cette routine-là, comme les préposés, on a essayé d'avoir une approche d'atelier c'est pas le patient qui vient à moi, c'est moi qui vais au patient, tu sais, je suis dans son domicile, je suis chez lui, puis là, s'il dort, ben, je vais pas le réveiller pour lui dire le bonjour, votre thyroïde est correcte, là, tu sais, faut pas faire ça, là, tu sais, à l'hôpital, c'est un peu plus ça qui se passe, ici, j'essaie d'en plus, bon, il est chez eux, il dort, je vais pas le déranger pour des choses non urgentes, fait que, tu sais, oui, s'il y a un spectacle à 2 heures, comme il y a eu, ou des activités, ben, j'essaie de faire le plus possible les patients que j'ai vraiment à voir, à examiner avant ça. J'essaie de ne pas limiter leur activité. Mais évidemment, bon, si il faut, là, évidemment.
C'est
selon mon jugement, mais j'essaie justement là, de respecter l'horaire, de respecter le jour des patients. Puis, on parlait justement d'approche, on parlait d'humour avec le patient. Puis, tu sais, je pense que dans la communication, autant avec les infirmières, les préposés que les patients, moi, je vais chercher un plaisir. Là, c'est pour ça que je suis allé vers la médecine, c'est pour ça que je suis allé vers le HSLD, puis vers la gériatrie aussi, là, tu sais, je pense que dans la communication, ben, il y a toujours un brain zero qu'on peut aller chercher, c'est sûr, ça dépend, là, bon, je fais pas des blagues avec mon patient qui va pas bien, qui est en grosse déprime, puis qui est mourant, là, on s'adapte à chaque interlocuteur, mais vraiment, tu sais, avec mes infirmières, là, avec qui je fais la tournée, que c'est les infirmières chefs avec qui je suis les tournées de patients, vraiment, tu sais, on s'entend bien, on compte des blagues, on a du plaisir dans notre communication, même si ça reste professionnel, là, tu sais, on avance, mais on se limite pas uniquement à ce qui est professionnel. Puis, même chose avec les patients, tu sais, c'est une petite ouverture à l'humour, là, moi, je suis le premier à faire une petite blague, à faire une petite tournure humoristique, là, tu sais, à ma phrase ou à ma question, là, puis ça, vraiment, il y a moyen d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait, mais, tu sais, je fais ça parce qu'on aime, fait que j'arrive à aimer ce que je fais aussi un peu, je pense que ça va de... Ça va ensemble, mais il y a moyen d'avoir du plaisir, là, tu sais, sans dire que, bon, je joue au ballon avec mes patients pendant toute l'avant-midi, c'est pas le cas, mais dans mon travail, dans ma communication, j'arrive à avoir du plaisir.
Exact. Toi, d'après, est-ce que ça peut arriver que tu fasses des activités, peut-être pas nécessairement le ballon, ça serait pas adapté au CHSLD, mais tu parlais de manicure, tu parlais de coiffure,
ben,
cette dimension-là.
J'ai quelques exemples. Cet hiver, à Noël, on a fait de soir, on a organisé un souper de Noël avec les résidents dans la grande salle.
Un party de Noël, là, ouais. Dans le CHSLD.
Puis on a demandé à chaque résident, est-ce que vous avez envie de venir souper en famille, qu'on a dit?
Oui.
Puis il y avait peut-être 3-4 résidents sur l'étage qui ont refusé puis qui sont restés à leur chambre, mais sinon, tout le monde était super intéressé. On a fait un cinéma aussi. Une soirée cinéma dans la grande salle encore. Puis les résidents, je pense que leur quotidien se ressemble beaucoup. Fait que des fois, juste venir mettre une petite touche d'activité comme ça, c'est le fun. C'est...
Puis j'imagine que d'accompagner les patients dans ces activités-là, de les voir plus souriants que d'habitude, ouais. Les voir briser un peu leur routine, ça vous apporte à vous, les préposés, aussi une satisfaction, un plaisir justement. Ouais. C'est le fun, le moment, il se partage entre vous. Et vous êtes tellement proches, eux, que le moment, le plaisir doit se partager vraiment.
Absolument.
C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, ça ne veut pas, ça amène une proximité avec le résident. Il y a toute la dimension de la famille aussi qu'on ne peut pas occulter, là, que la famille garde, la famille, les proches, garde vraiment une grande place puis qu'on ne peut pas tasser. Est-ce que c'est bien intégré, cette dimension-là, puis ce volet-là avec, dans le fond, le résident, ses proches, sa famille, puis comment ça s'intègre dans. Parce qu'ils ne vivent pas ici, dans le fond. Là. Souvent, c'est des gens qui ont passé avec leur conjoint et conjointe puis qui sont arrivés au CHSLD. Fait qu'est-ce qu'on intègre. Cette proximité-là avec la famille, puis comment ça se vit?
Bien, la famille, les familles, la plupart des familles sont très impliquées au niveau des comités aussi. Ils sont impliqués au niveau de leurs parents, puis des autres aussi résidents. Fait que
c'est, oui, c'est ça, parce que ça peut être des enfants aussi qui sont très présents.
Oui, exactement. Exactement.
Puis ça doit faire partie intégrante aussi là, de la prise en charge médicale, cette communication-là avec les familles.
Oui,
bien,
oui. Beaucoup de mes patients, effectivement, sont trop neurocognitifs, là, ou des démences, là, qu'on appelait auparavant. Donc, ils ne sont pas capables de prendre leurs propres décisions. Là, fait que oui, la famille est pratiquement tout le temps à impliquer là, dans les décisions. Je ne les avais pas nécessairement à chaque décision que je prends, mais quand il y a un moment charnière ou quand il y a
une évolution
dans tout ça, là, ben oui, certainement, là, je tiens les familles au courant. Puis oui, ça peut mener à des moments privilégiés. Là, je vous dirais, c'est surtout un peu les. Ça peut sembler drôle à dire, mais surtout les moments de fin de vie où là, toute la famille se réunit auprès du patient un peu pour les derniers moments. Là, il y a vraiment vécu des moments privilégiés avec avec autant les familles qu'avec les patients là, dans ces derniers moments-là. Ces moments très émotifs. Puis, on est vraiment entré dans cette bulle-là, dans ce moment-là, fait que ça fait vraiment des émotions fortes puis des moments qui me sont chers là, quand même.
Ben oui, vraiment. Ben, ça fait quelques fois là, qu'on en parle, mais comment ça se passe ce processus-là de fin de vie en CHSLD un peu? Parce que les gens, ils arrivent ici, on n'a pas une durée moyenne de 10 ans quand on arrive en
non,
CHSLD.
Non, on parle de 12 à 18 mois, même pas ça, même moins que ça, 6 mois.
Certains un petit peu plus, tout dépendant, ouais, mais on est plus dans cette fenêtre-là. Fait ça ressemble à quoi, dans le fond? C'est quoi un peu ce processus-là de soins de fin de vie puis d'accompagnement vers les derniers moments?
Quand les résidents arrivent, premièrement, si on revient aux familles, les familles aussi amènent ils connaissaient leurs parents avant qu'ils rentrent en CHSLD, puis le concept milieu de vie, si on veut vraiment le respecter, c'est que les résidents continuent à vivre comme ils vivaient avant puis d'essayer de vraiment recréer leur milieu de vie ici. Puis, pour revenir à
les soins de fin de vie.
Oui, exactement. Quand les résidents arrivent, on essaie de garder leur autonomie le plus possible, le plus longtemps possible. On essaie de garder la personne qui sont le plus longtemps possible.
Dans leur état. Dans leur état. De les accompagner là-dedans parce que c'est un cheminement. Puis, la fin de vie, elle se fait pas nécessairement en 24-48 heures.
Non,
parce
ça
qu'elle
peut
doit
être grave,
venir.
Ben, c'est très, chaque cas est très dépendant. Là, on est moins. Dans une maison de soins palliatifs où c'est un patient un peu typique, un patient bon, qui a le cancer en phase terminale, qui reste à peu près un mois, ben, l'évolution est un peu semblable. Des fois, en CHSLD, ben, on a nos patients, quand on les admet ici, justement, pour un mois, 6 mois, 12 mois, 10 ans des fois, on ne sait pas combien de temps, on le garde ici jusqu'à la fin. On ne le renvoie pas à l'hôpital pour la fin de vie, on ne le renvoie pas à la maison de soins palliatifs, on le garde ici jusqu'à la fin. Fait qu'on n'a pas juste des fins de vie de cancer, on a des fins de vie de différentes choses. On a beaucoup de fins de vie de gens cognitifs où la maladie va tellement loin que soit ils oublient entre guillemets comment avaler, puis là ils s'étouffent, ils font des pneumonies, puis on fait des fins de vie sur des infections pulmonaires. Ça peut quand même se passer rapidement, puis des fois c'est un peu surprenant, mais là, il y a comme un peu un choix qui se fait de la famille. On dit, bon, celle-là, est-ce qu'on la traite ou est-ce qu'on la traite pas? Bon, la qualité de vie était tellement plus intéressante qu'on fait le choix qu'on, on laisse un peu la nature faire les choses puis qu'on soulage le patient. Des fois aussi, là, c'est ça, c'est des chutes qui nous amènent vers un déclin, tranquillement, des capacités du patient. Ou des fois, ben, c'est toute leur autre maladie qu'on disait tantôt. C'est des gens souvent hypothéqués, souvent malades. Fait qu'on a des fins de vie très, très différentes une de l'autre. Là, fait que c'est un peu là aussi une des choses que moi je trouve agréable de CHSLD, c'est qu'on n'a pas. Il n'y a pas nécessairement de quoi tout pareil un peu. Tout le monde finit par avoir son bread and butter, c'est sûr, là, en médecine. En CHSLD, il y a vraiment beaucoup de diversité, je trouve. Puis nos fins de vie sont toutes un peu différentes. Fait que, il y en a qui se passent en matière de jour sur un événement aigu, une chute, une pneumonie. Puis là, bon, rapidement, ça se détériore. C'est sûr qu'on va faire le confort, on fait de l'accompagnement de fin de vie. Puis là, des fois, les familles sont un peu plus... C'est sous le choc, ça se passe un peu vite pour eux. Alors que des fois, ben, c'est vraiment quelque chose qui se passe à petit feu là, sur des mois. Là, qu'on voit que tranquillement, l'infirmière leur marque, ils leur marquent Madame une telle, là, tranquillement, là, elle s'en va, elle diminue, elle marche moins, elle mange moins, etc. Puis on voit ça s'installe sur des mois, jusqu'à temps que vraiment, là, okay, là non, on a l'air vraiment d'aller vers la phase un peu plus terminale. Puis on tient la famille au courant, puis ils sont un peu plus sereins face à ça. Mais il y a quand même un moment où un peu tout le monde vient voir là, la personne, tout ça. Puis. C'est très hétérogène, mais après ça, petit, les soins palliatifs, ben, nos infirmières et prothésistes ben, sont habitués à les faire aussi. La médication aux besoins, les soins de confort. C'est tout ça. On le fait pour tous nos patients, vu qu'ils finissent évidemment tous par mourir. Là, pas trop le choix, mais on est habitué à les faire. Il n'y a pas de panique dans le personnel, il n'y a pas de surprise que ces gens-là vont
éventuellement. C'est vraiment un accompagnement.
C'est vraiment un accompagnement. Là, ouais.
On garde jusqu'au dernier moment, puis on fait. Ben, puis ça doit pas. On doit s'attacher là, à plusieurs résidents, mais pas parce qu'on les a pendant un an et demi. Ben, là, ça fait un an qu'on est là. Ben, quoi qu'après, on peut s'attacher vite. Là,
ben, ça va être encore plus vrai, mais je serais curieux de voir ce que d'année avant, justement, comment ça se passe. Là, moi j'ai un peu la vision un peu plus distancée des patients.
Moi, je
suis pas là au quotidien, moi je fais la visite médicale, je vois le problème de santé un peu qui évolue, puis moi je le sens un peu plus venir peut-être là, aussi de mon background, mais je suis curieux de voir un peu comment tu vis ça, toi, justement, les fins de vie ou les passages en soins de confort pour des patients que tu connais depuis longtemps. Est-ce que ça...
Ben, la vision de soins de confort, elle a changé depuis mon début de carrière.
Dans les deux dernières années?
Oui, absolument. Okay. Au début, ça me faisait peur. C'était ma plus grande peur, c'était mon premier décès. Comment j'allais prendre ça? Parce que oui, on s'attache aux résidents. Mais ma vision, elle a changé. Je trouve que maintenant, c'est de livrer quelqu'un. Tu sais, il y en a qui souffrent vraiment, puis qui ne veulent plus être là, puis tu le vois, puis ils ne sont plus bien, leur état s'est dégradé, fait que c'est juste une délivrance.
T'en as des résidents qui l'abordent aussi, la mort, puis qui sont prêts à ça à un certain âge, après avoir traversé la maladie pendant plusieurs années. Fait qu'il faut pas, tu sais, je pense qu'en CHSLD, il faut pas occulter cette dimension-là de mort. C'est pas le premier sujet qu'on parle avec quelqu'un qui est admis, mais être omniprésente, de se dire, on va s'en aller vers ça, puis on va vous accompagner dans la douceur, dans le soulagement, dans étape par étape.
Ouais.
Mais ça peut venir, là, je dis ça, là, j'ai des frissons, je suis bien émotive. Ouais.
C'est d'essayer de t'en faire un sens, justement, de faire du sens à la qualité de vie. C'est un peu dès le début, c'est ça, c'est de faire du sens à la qualité de vie qui leur reste, de faire du sens de la fin de vie, le temps de vie qui leur reste, puis faire sens de la mort un peu, puis autant pour le patient que pour la famille. Ça va être vrai aussi pour les préposés qui font finalement un peu partie de la famille, là, j'imagine, après plusieurs années. Là, c'est d'essayer de faire du sens de tout ça, puis de... Ça se passe le mieux possible. Là.
C'est ça, d'être dans le sens. Puis c'est ça, tu disais, t'anticipais tes premiers décès, les premières fois, puis comment ça s'est passé, comment ça a été. Puis c'est quand même pas quelque chose qui est vécu au quotidien non plus. Là,
non, c'est ça.
En fait, mon premier décès, ça s'est. Puis c'était un soulagement de la voir partir parce qu'elle était plus bien, sa famille était plus bien non plus. Puis, tu sais, c'est quand même même si on essaye d'éviter ça, c'est quand même un choc rentrant en CHSLD. La personne vient de perdre beaucoup de choses, tu sais. Puis on a beau essayer de garder la personne.
Puis de recréer le milieu.
Exactement.
Ça reste un deuil pour eux, c'est être chez eux.
Exactement.
Ah, ouais, donc, tout à fait. La transition du domicile ou d'être avec ses enfants ou d'une résidence pour personnes âgées, puis d'avoir en CHSLD, il y a déjà là comme un premier deuil pour les résidents qui comprennent la transition qu'ils vivent. Là. Fait que là, après ça, si on évolue dans la maladie et tout, c'est un autre étape.
Il y en a qui se laissent évoluer dans la maladie aussi.
Fait que là, il faut accepter.
Oui.
C'est de...
Il faut respecter aussi leur choix. Il y en a qui se laissent dégrader. Il faut respecter ça aussi.
Puis là, je voulais pas nous lancer dans des grosses discussions éthiques ce matin, mais... C'est tout le volet de l'acharnement thérapeutique ou de l'acharnement clinique, on n'est pas nécessairement dans ce paradigme-là à l'hébergement, on n'est pas dans l'abandon, mais on est dans le bon soin au bon moment.
Oui. Exact. C'est vraiment, ouais, tu dis bien le bon soin au bon moment pour la bonne personne aussi. Là, chaque personne est différente. Puis ça, c'est un des défis justement médical que moi je trouve intéressant au CHSLD. Là. Justement, c'est de, y a pas de une bonne réponse ou de. Chez en médecine adulte, là, bon, t'as un édème du poumon, la réponse est claire, ben, tu fais ton LMNOP, tu fais ton guide de pratique, tu règles le problème. Mais dans le CHSLD, mais pas nécessairement, est-ce que ça vaut la peine qu'on traite? Est-ce que le patient voudrait qu'on le traite? Est-ce que le patient a la capacité d'avoir la SIX? Est-ce que le patient a la capacité de recevoir le traitement? Puis, est-ce que de l'envoyer à l'hôpital, de faire les tests plus invasifs, de faire la dialyse pour de l'insuffisance rénale, ben, est-ce que quel est vraiment le bénéfice qu'on apporte aux patients à faire ces affaires-là? Puis ça, c'est une question qui n'y a pas une bonne réponse. Il y en a pour qui, oui, ça vaut la peine, là, on continue à faire de la dialyse, même en CHSLD, alors pour qui disent non, clairement que sa qualité de vie est déjà pas intéressante pour lui. Puis là, si en plus, on y met des visites à l'hôpital par semaine, ben là, tu sais, ça... On y cause bien plus de tort que de bien, puis ça, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre nous-mêmes, on ne peut pas assumer toute cette responsabilité-là. Il faut qu'on partage ça avec les infirmières qui le connaissent au quotidien, avec la famille, justement, avec le patient dans la capacité qu'il est capable de nous répondre. Même les gens, c'est très, très dément, sont capables de nous dire « Ah oh non, je suis tanné » ou « Ah oh non, je veux continuer ». Il y en a qu'on le voit tout de suite, il y en a qui sont plus batailleurs, alors qu'il y en a qui se laissent un peu plus aller. Il faut vraiment prendre toute cette information-là ensemble, puis peser tout ça dans les pour et les contre. Puis bon, souvent, on dit en CHSLD, ben, le bon choix, là, surtout qu'on arrive vers un niveau de soins que la priorité du patient, mais c'est plus le confort que prolonger la vie coûte que coûte, mais c'est des choix un peu plus conservateurs. On reste ici au CHSLD, on s'occupe surtout de le garder confortable, le soulager, puis on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais on se lance pas dans des choses invasives, puis c'est ça fait que toute cette espèce de dimension-là de devoir choisir le bon fond au bon moment, ben, c'est très important. Puis ça fait partie, c'est un peu le défi du CHSLD, puis je trouve ça un défi valorisant.
Fait que dans le fond, c'est comme le soin aux aînés en CHSLD, en perte d'autonomie, on est vraiment dans l'unicité de la personne. On va vraiment prendre le portrait complet, puis là, de se dire, ben, avec la personne en concertation, la famille, l'équipe de soins, le médical, qu'est-ce qui va être le mieux, en fait, puis vers quoi on s'en va, puis c'est quoi le choix? Est-ce qu'on va vers des traitements plus intense ou plus curatif, ou on s'en va plus vers le soulagement. Ça comprend vraiment la personne dans son spectre au complet de A à Z là, pour la traiter.
Je pense que c'est un concept intéressant, c'est l'unicité, puis je pense que ça s'applique aussi justement au ce que Daphné et les préposés ils font. Justement, t'sais, chaque patient, on respecte l'heure à laquelle ils veulent se lever, les tournées de médicaments ne sont pas nécessairement toutes à la même heure, tout le monde, puisqu'on respecte quand ils se réveillent, les repas à l'hôpital, bon, tout le monde a leur cabaret, pareil ici, ben non, on essaie de faire le vrac, on essaie de leur faire choisir un peu ce qu'ils aiment, on essaie de personnaliser leur chambre, ils mettent des photos, ils mettent des choses, ça, je pense qu'on est un établissement, mais on se veut essayer d'être justement de respecter l'unicité du patient.
Ben oui,
puis c'est vrai dans le médical, mais c'est vrai aussi dans le.
Ben oui, puis ça change un peu cette vision-là, parce qu'on était très habitués, tous les domaines de la santé, peu importe où est-ce qu'on est, d'être dans la tournée, les professionnels, puis les employés qui connaissent. Puis ça change ce paradigme-là un peu. Là, on s'en vient vers le résident, la famille, leurs souhaits. Là, dans le fond, il n'y a plus nécessairement de tournée qu'à 7 heures, tout le monde est élevé puis tout le monde déjeune. On n'est plus du tout là-dedans. Là. Ça, c'est quoi un peu, il y en a un, dès qu'il se lève, il se réveille, puis on l'accompagne. S'il dort jusqu'à midi, il dort jusqu'à midi, puis on deal bien avec ça.
Exactement.
Là. On les laisse.
On essaie de s'accommoder aussi avec le personnel qu'on a. Là. On essaie de faire notre possible.
Ben oui.
Mais non, il n'y a plus de tournée. On part du fond, puis on s'en vient vers l'avant. On connaît nos résidents aussi, on connaît leur routine, leur heure de coucher, quand ils veulent se coucher. Il y en a qui se couchent super tôt, il y en a qui se couchent super tard.
Il y en a qui doivent rester debout toute la nuit. Si on a travaillé une nuit toute notre vie, ça se peut qu'en perte d'autonomie avec un trouble neurocognitif, on se remette dans le bain de notre routine de nuit. Là.
Puis il y en a aussi qui on arrive pour lever, puis « Ah non, ça me tente de rester au lit aujourd'hui » ou « On respecte ça ».
Puis les résidents, ils sont, on est milieu de vie, ils sont habillés, là. on n'est pas dans la dimension de la jaquette, de coucher, on n'est pas du tout là-dedans, là, ouais. Non, fait qu'on...
Ils ont leur propre vêtement, puis dans la mesure du possible, on offre le choix aussi aux résidents de choisir son linge. Fait que le soir, quel pyjama vous voulez mettre ce soir, puis...
Fait qu'ils se font poser un million de questions par jour,
ces résidents-là! Oui, c'est ça! Mais on essaie d'aller pousser, de prendre des décisions le plus possible, parce que c'est...
De les encourager, dans le fond, puis de préserver ces petits moments-là là, d'autonomie, puis d'empowerment, là, qu'on peut dire. Là. Mon Dieu, je lâche tous mes termes en même temps, je pense. C'est bien intéressant, c'est bien le fun. Puis, tu sais, penser que vous pouvez faire une différence dans en ayant choisi de travailler en CHSLD, ça, tu sais, est-ce que pour vous comme individu, ça vous amène de quoi de plus ou
Ouais. Mais par exemple, tu passes dans le corridor, il y a un résident, tu lui dis bonjour, comment s'est passée votre journée, t'as changé sa journée. Juste ça, là, une simple petite chose va changer sa journée, puis c'est gratifiant, puis ça vient te nourrir. Là. C'est juste ça, là, une simple petite chose, ça peut. Ça vient nous gratifier, puis ça vient changer leur journée en même temps.
Ça vient vous amener, fait que c'est des petits gestes. Mais c'est beau de vous entendre parce que, tu sais, tout n'est pas rose non plus là, dans les CHSLD. Il manque quand même de personnel. On parle comme s'il y avait toujours 30 préposés pour 30 résidents. Pas nécessairement là-dedans. Fait que, est-ce que ça se. Comment on conjugue ça un peu, le manque de personnel? Des fois, il faut faire avec moins, il doit y avoir une rotation dans les équipes de soins. C'est toujours les mêmes équipes avec qui on travaille. Parce qu'il y a toute la dimension de confiance entre nos collègues qu'il faut avoir. Mm-hmm. Si quelqu'un nous appelle pour dire, si je passe côté médical, si une infirmière appelle pour dire qu'il faut faire confiance à l'infirmière qui rapporte, mettons, la décompensation. Fait que le roulement, est-ce que ça l'amène... Ça change-tu quelque chose dans le quotidien ou vous vivez pas trop ça à Sainte-Adèle?
En fait, le manque de personnel, on se le cachera pas, c'est partout, là. Puis ici, ce qu'il y a de différent, je pense, c'est que vu qu'on a ouvert, puis on a commencé à beaucoup trop de personnel versus les résidents, on a créé une routine aux résidents qu'on a gardée quand même encore à ce jour. Fait que ça a été plus facile de s'adapter. T'sais, on était de moins en moins, mais on réussissait quand même à garder le même rythme qu'on avait au début.
OK. Fait que vous étiez développé vraiment une manière de travailler et de communiquer ensemble.
On n'est pas venu brimer leur routine parce qu'on était en manque de personnel. Tu sais,
vous arrivez encore à aller chercher les petits gestes gratifiants pour vous, les petits bonjours, les petites attentions dans l'eau du bain, tu sais, dans la routine. Vous arrivez encore à avoir ces moments-là, je vois que tu disais qu'ils te nourrissent. Tu arrives encore à voir ça même si c'est moins de main.
Oui, puis je dirais même que c'est les résidents qui viennent nous sauver des fois puis qui viennent nous calmer. Des fois, on arrive là, puis on est en moins, puis c'est, je veux dire, c'est stressant.
Ben,
est-ce qu'on va y arriver? Comment on va
l'ampleur faire? L'ampleur de la tâche, tout ce qu'il y a à faire.
Puis, les résidents sont tellement compréhensifs, premièrement. Puis deuxièmement, c'est eux qui viennent nous... Leur sourire, là, ils viennent nous calmer, nous dire « OK, t'es là pour ça. »
La relation d'aide, elle se fait dans les deux sens.
Oui, exactement, exactement.
C'est comme se ramener à l'essentiel, en fait, qui est comme juste d'offrir un soin à une personne, tu sais.
Oui, c'est ça.
Puis de part et d'autre. Fait que là, pour les résidents, vous conforte aussi aux besoins. Puis c'est le fun. Vous entendez un peu, c'est inspirant. Puis ça donne quasiment envie d'essayer puis de venir voir c'est quoi un peu ces milieux-là. J'espère que ça va avoir démystifié certains éléments. Puis là, je vois le temps qui file. Pour terminer, en fait, à moins que je ne sais pas si vous aviez des trucs à rajouter ou d'autres éléments que vous vouliez aborder.
Juste pour répondre à la question que tu as posée avant, là, par rapport à la solidité des équipes. c'est ça, c'est plus le fun quand on connaît avec qui on travaille, justement. C'est là qu'on forme un peu une complicité, puis c'est le moment que le plaisir vient se faire. Mais on arrive quand même à faire le travail avec une équipe un peu sincère. Des fois, ça prend un peu plus de travail de notre part, justement, là, parce qu'il faut un peu plus. Faire un peu plus de travail mental. Il y a moins du travail mental qui a été pré-fait pour moi, il faut un peu plus que j'en fasse. Puis, tu vois, des fois, les appels, ça devient un peu frustrant des fois quand justement, là, l'appel n'a pas été fait avec une préparation, que je demande des questions un peu de base. Mm-hmm. Puis là, ça prend 5 minutes de trouver l'information qui aurait déjà été un peu être prête. Mais, tu sais, on arrive à. On s'habitue un peu, on s'adapte. Là, tu sais, je continue un peu avec ma routine de quand ils m'appellent, je dis bon, textez-moi tout ça. Puis, quand je reçois les photos, ben, là, je réponds. En tout cas, on trouve des moyens de fonctionner. Ça, c'est plus agréable avec les équipes. Puis, la plupart du temps, ben, on a quand même nos infirmières stables. Puis, puis ça va bien, là, tu sais, des fois, bon, les soirs ou les fins de semaine, ou quand l'autre s'achète, je garde aussi pour l'autre s'acheter, quand eux m'appellent, ben, je les connais moins, fait que là, des fois, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, on garde notre rigueur médicale, puis on y arrive.
Là, on s'adapte à la bien, situation. Même, là,
je trouve qu'il y a quand même une très belle communication, puis un beau travail d'équipe dans le centre en entier, là, que ça soit intercorps ou. De corps.
Ben oui, j'étais perdue justement dans le corps, puis un infirmier m'a pris sous son aile pour me diriger. J'étais vraiment perdue, là, je me rendais dans des chambres, puis il me disait, je pense que tu vas à bonne place. Fait que non, tout à fait. Ben, pour conclure, en fait, l'épisode, j'aimerais ça pour vous, en un mot ou quelques mots, ça représente quoi le travail en CHSLD? Ça va être comme notre conclusion. Je sais pas qui veut se lancer.
Bienveillance.
Oui.
Bienveillance.
La bienveillance.
Oui. Parce que ça t'apporte du réconfort, puis ça te rapporte du réconfort à toi-même aussi. Puis c'est ça, c'est un métier de bienveillance.
Dans le quotidien.
Dans le quotidien.
Ouais, j'avoue qu'un mot.
Quelques mots. Ça peut être une phrase.
Ou encore deux. Là, ben, tu sais, je mettrais encore un peu les deux aspects que j'ai amenés tantôt. Tu sais, du côté médical, justement, j'ai bien aimé le mot unicité du patient. Chaque patient, chaque cas est vraiment son cas unique à regarder de façon particulière. Ça fait que c'est valorisant, c'est pas redondant. Puis de l'autre côté, l'interdisciplinarité, là, tu sais, du côté plus communication avec les infirmières, les préposés, c'est vraiment l'autre aspect de sa vie que je trouve vraiment valorisant, là, de pouvoir avoir mes yeux et mes mains qui sont pas moi, qui sont les infirmières, que faut vraiment aller chercher cette relation-là d'interdisciplinarité qui est vraiment intéressante et amusante.
Génial! Ben, un gros merci à vous deux! Belle journée!
Et merci à toi!
On pourrait pas finir le balado sans nos remerciements. Donc, un merci aux 6 des Laurentides et au comité de travail édité, dont faisaient partie Dr. Suzanne Lebel, Gilles Montpetit, Mélanie Lepage et Mylène Germain. Un merci tout spécial à Aramis d'avoir créé et enregistré pour nous notre musique d'introduction. Merci à Valérie Ménard du service des communications du 6 des Laurentides. Et un grand merci tout spécial à Marie Janelle d'avoir laissé libre cours à cette idée folle de balado. Merci beaucoup tout le monde!
Des milieux de vie et bien plus.